Le Mistral, l'un des plus gros navires de la marine nationale après le Charles de Gaulle. Ses caractéristiques sont impressionnantes, 200 mètres de long, 32 mètres de large, un déplacement de 21 500 tonnes à pleine charge, l'équivalent de 77 Airbus A380. Son pont d'envol, grand comme un terrain de foot, permet à 6 hélicoptères de se poser simultanément. Nous arrivons au port de La Rochelle en voiture. C'est là que nous attend le Mistral. Ce matin, le ciel gronde, la traversée s'annonce humide. Dans 3 heures, nous appareillerons pour Brest. Avant, il faut débarquer tous les véhicules de combat parqués dans le hangar. Le Mistral doit être complètement vidé. Il va subir des travaux pendant 4 mois à Brest. Arrivé à bord, l'équipage nous remet la fiche d'embarquement. Nous logerons dans la chambre Echo 312. Ce qui surprend ici, ce sont les larges coursives, les grands escaliers, les salons, les mobiliers, les chambres, tout est soigné. Sur le Mistral, l'impression de place est omniprésente. Il faut dire que le navire est amené à opérer de longues semaines hors de France. Les croisières doivent donc être supportables pour les marins. Une salle de sport de 150 mètres carrés a d'ailleurs été spécialement aménagée. À peine arrivé, l'équipage nous propose une visite du bord.
C'est bon ?
Avec plaisir.
Allez. Merci. Donc, si vous êtes au PC Metz, ça comprend en fait la partie surveillance sécurité du bâtiment qui est derrière vous. Donc ça concerne toute la sécurité, à savoir la détection incendie, les voies d'eau, la position des portes du bâtiment, qu'elles donnent vers l'extérieur ou que ce soit à l'intérieur du bâtiment.
Pour voir le commandant, nous prenons l'ascenseur. La passerelle se situe tout en haut du bateau.
Là, on va monter à la retraite.
Le Mistral est commandé par le capitaine de vaisseau Gilumeau. Il dirige le bâtiment depuis le 8 septembre 2006.
C'est un bateau qui, à la différence d'un autre, n'a pas une mission, mais a plein de missions possibles. C'est une boîte à outils de la force navale, ce bateau-là. Ce bateau est capable de faire fonctionner simultanément 6 hélicoptères. Son hangar est capable d'en stocker 16. On peut imaginer de faire travailler jusqu'à une vingtaine d'hélicoptères à bord, tout ça dépendant de la taille des hélicoptères et de la mission qu'on veut faire naturellement. C'est une plateforme hélicoptère de premier rang. Un pont d'envol de 200 mètres de long sur 30 mètres de large avec un hangar de 2000 mètres carrés, c'est gigantesque et ça marche très très bien. Et ça permet d'envisager de faire des opérations héliportées de très grande envergure comme on n'en a jamais connu en France. On est capable de transporter à peu près 500 personnes en plus de l'équipage et de la mettre à terre à l'aide de 4 bateaux de débarquement ou de 2 hovercraft américains si on les embarque. Voilà, donc rajoutez-y des fonctions de support, c'est-à-dire outre la capacité d'accueil qui sert dans tous les cas, un hôpital qui est de grande taille et qui peut atteindre la taille d'un hôpital d'une ville moyenne en France, comme Briançon ou Orlais peut-être, avec un plateau technique qui est assez important, avec 2 blocs opératoires capables de travailler simultanément, de la réanimation, je crois qu'il y a 69 lits dédiés, plus ou moins 35 capables d'accueillir des malades sur une longue durée. Et ça aussi c'est une nouveauté. Il y a une partie résidente dans le bateau qui a ses 69 lits et on peut l'étendre dans le hangar jusqu'à atteindre un plateau technique tout à fait extraordinaire avec 8 éléments techniques modulaires.
Poste de manœuvre général. Poste de manœuvre général. Dans 10 minutes, prêtement de la coupe.
Merci.
L'hôpital, là encore, une spécificité du Mistral. Il dispose des capacités équivalentes à celles d'une ville de 40 000 habitants. Nous avons rendez-vous avec celui que l'on appelle ici le doc, Yann Briand est le médecin du bord.
Il est clair que ce bateau a une spécificité, c'est très probablement le bateau qui dispose des capacités hospitalières embarquées les plus importantes d'Europe. Il est capable d'assurer pour une force embarquée des interventions chirurgicales à la mer avec 2 blocs opératoires qui peuvent fonctionner simultanément, un scanner qui peut permettre de compléter le diagnostic, 70 lits d'hospitalisation dont 19 lits de triage et de réanimation. Donc il est tout à fait adapté à ce pourquoi il a été conçu, c'est-à-dire soutenir sur le plan santé une force à terre, et également il peut être étendu dans ses capacités, capacité de plus de 100 lits, et adjonction d'éléments dans le hangar hélicoptère qui augmentent ses capacités hospitalières de traitement avec une équipe de chirurgiens et de médecins réanimateurs et de médecins spécialistes qui pourraient permettre de garder les blessés plus de 10 jours à bord, ce qui est une première en tous les cas dans le service de santé des armées, dans la marine et en Europe. 5, 4, 3, 2, 1,
top. Il était 16h.
Ce qui a été prévu pour ce bateau, comme tout le bateau, c'est d'être un bateau du 21e siècle. Donc aujourd'hui, on ne peut pas se passer d'Internet. Donc nous l'utilisons au niveau du service de santé à travers la télémédecine. Télémédecine avec deux aspects. Simplement transmission d'informations vers la terre, vers les hôpitaux d'instruction des armées, vers les spécialistes, d'images radiologiques qui nous poseraient problème. On transfère les données telles quelles et l'image est lue sur un ordinateur puisque toute la radiologie du bord est numérique. Mais aussi possibilité à moyen terme, puisque tous les blocs opératoires, les deux blocs opératoires sont câblés en ce sens, de pouvoir faire de la téléchirurgie. Un chirurgien opère un blessé ou un malade, s'il s'agit d'une opération humanitaire, et il peut être conseillé à distance par le chirurgien spécialiste d'un des hôpitaux des armées, en particulier l'hôpital d'instruction des armées Sainte-Anne à Toulon.
Cet hôpital mobile, moderne, peut également être transformé en hôpital de campagne. C'est dans le hangar hélicoptère qu'il faut aller. Ici, habituellement, dans ces 1800 m², on stocke et on entretient 16 hélicoptères. Aujourd'hui, le hangar est vide, avant les travaux prévus à Brest. Seuls restent les 8 éléments techniques modulaires. Ces gros cubes permettent d'augmenter les capacités de l'hôpital. Une fois installés, ce sont deux blocs opératoires supplémentaires qui sont opérationnels. C'est ce qui s'est passé en juillet 2006 lors du conflit au Liban.
Cet hôpital au Liban a servi, effectivement. Il n'a pas servi pour des blessés, puisque lorsqu'il y a eu des blessés, les blessés les plus graves avaient été évacués par moyen aérien à partir de Beyrouth. Vous imaginez bien que lorsque vous évacuez 1500 ressortissants, parmi ces 1500 ressortissants, vous avez statistiquement une représentation de la population générale. Et dans cette population, vous avez des très jeunes enfants et des personnes âgées. Et parmi ces personnes âgées en particulier, beaucoup de gens qui étaient stressés, éprouvés par les combats, éprouvés par la situation au Liban. Et donc il a fallu les accueillir, on a fait de très nombreuses consultations. Et également pour les enfants, il a fallu organiser à l'hôpital une zone qui puisse accueillir ces enfants qui étaient en bonne santé. Le plus jeune avait 24 heures de vie et il a eu la bonne idée de naître avant de monter à bord, ce qui a évité à l'équipe du bord de faire de l'obstétrique, mais ceci est un clin d'œil. En revanche, il y avait lors de l'embarquement des ressortissants, systématiquement l'équipe médicale présente à l'arrivée qui permettait avec un œil médical d'orienter vers l'infirmerie, vers une consultation, ces ressortissants qui montaient à bord. Les capacités d'hospitalisation ont été remplies par cette pathologie. Pathologie en tout genre, donc des gens stressés, éprouvés, mais aussi la pathologie de tous les jours, de l'hypertension artérielle, du diabète. Et il fallait s'occuper de tous ces gens. Et mon prédécesseur était entouré d'une équipe chirurgicale. La 7e antenne chirurgicale parachutiste était à bord. Donc un médecin réanimateur et deux chirurgiens, plus six infirmières ou infirmiers spécialisés, mais également un psychiatre et également un urgentiste qui a rejoint le bateau en cours de mission et un dentiste qui a assuré l'ensemble des soins dentaires.
Après le dîner, nous montons au pont numéro 7. C'est le seul endroit où l'on peut admirer l'océan et prendre l'air. Nous y reviendrons d'ailleurs à plusieurs reprises pendant la traversée. Descendant, on est attiré par de la musique. Ça vient du bar OM, les officiers mariniers. Il faut savoir se détendre à bord du Mistral. Il commence à se faire tard. Demain, il faudra être sur le pont de bonne heure. « 7h30, l'heure du réveil de l'équipage. Le clairon est diffusé dans tout le navire.
Baïkal, vous souhaite une bonne journée.
Après le petit déjeuner, nous partons à la rencontre d'un marin. Il joue un rôle essentiel à bord, c'est le commissaire. La gestion des repas, du personnel, les couvertures, c'est sa mission. Le commissaire en chef à bord du Mistral s'appelle Sylvain Creusot. Il nous reçoit dans sa chambre aménagée en bureau. Mais il nous prévient, il faudra faire vite, il a très peu de temps à nous consacrer. Il faut dire que ses missions sont multiples, à commencer par les repas.
L'autonomie exigée, c'est 30 jours. De mer pour plus de 600 personnes, hein, c'est-à-dire 177 membres d'équipage et on va dire entre 450 et 500 passagers. Ça, c'est l'autonomie théorique qu'on atteint très facilement et qu'on vous demande lorsque vous partez en mission opérationnelle, par exemple, quand vous partez à la mer pendant une longue durée. Dans les faits, c'est beaucoup plus, parce qu'effectivement, j'ai des volumes utiles dans les soutes qui sont très importants. Et donc la bonne surprise, c'est qu'on arrive à 60-70 jours d'autonomie en vivre sur ce bâtiment. Ce qui est considérable, ça veut dire que en ravitaillement uniquement quelques produits frais régulièrement en escale et très rapidement, vous arrivez à tenir donc on va dire plus de 2 mois à la mer avec 650 personnes à bord. C'est à rapprocher également de l'autonomie donc en combustible qui est considérable sur ce bâtiment. Et donc on voit très bien que l'idée derrière ce nouveau concept, c'est de pouvoir durer à la mer. C'est pour ça aussi, bien sûr, que le personnel, comme vous le savez, a un niveau de confort inégalé sur les bâtiments de la Marine nationale. Vous savez que normalement, ce bâtiment, il est censé rester techniquement à la mer pendant 350 jours par an. On sait très bien que le personnel ne pourrait pas tenir. Derrière, on comprend très bien que l'autonomie qui était prévue pour lui doit suivre, quoi. Donc elle suit en matière de combustible, elle suit en matière de vie. Et puis, vous avez des conditions d'hébergement, vous avez des connexions Internet, vous avez des systèmes d'information et de commandement qui vous permettent de durer à la mer.
Ça représente 70-80 tonnes de vivres, quand on est vraiment au plein complet.
Communication, on rappellera les équipes de navigation de resserrer à
1030. À bord, ce qu'il faut que vous sachiez, mais ça c'est valable dans toutes les armées, vous avez un responsable pour chaque article de matériel. Le commissariat, c'est aussi lui qui s'occupe de l'ensemble des rémunérations du bord. Il s'occupe également de la gestion financière des vivres, c'est-à-dire que c'est pas le tout au fait de faire à manger au personnel. Il faut également... si vous voulez, gérer les allocations financières mises à disposition du bâtiment par l'État. Donc chaque jour, l'État me verse un certain nombre d'euros par homme qui permet de nourrir le personnel. Alors, schématiquement, pour vous donner une idée, le commissaire, quand il est taqué à Toulon, il a 3,52 euros par homme et par jour pour assurer un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Parfois, on développe parfois des trésors d'intelligence pour essayer d'assurer un niveau de prestation correct, surtout à quai. Hein. Très rapidement, quand vous avez un niveau de prestation qui baisse, parce que votre commis n'est pas très bon, enfin votre gestionnaire, votre économe n'est pas très bon, ou que votre cuisine n'est pas très bon, ça se ressent sur le moral, c'est immédiat. Hein. Le boulanger, par exemple, est un rôle crucial à bord. Même s'il travaille la nuit, même si on ne voit pas, si le lendemain matin, en fait, la qualité du pain baisse, ben, à bord, tout le monde vous le dit, parce que ça fait partie du quotidien des gens et que ça les aide à avoir un moral meilleur.
Le Mistral est le premier navire tout électrique de la marine. Il n'y a pas besoin de beaucoup d'hommes à la barre pour le manœuvrer. Ils ne sont que 177 marins à vivre sur le Mistral. C'est peu pour un navire de ce type. Une autre spécificité, la féminisation. Marie-Dominique Broudin est l'officier de communication. Elle vient d'arriver sur le Mistral.
Ce qui est assez flagrant, c'est que autant il y a quelques années, on en parlait beaucoup, c'était sujet à polémique. On est vraiment très bien intégré et effectivement, la preuve en est, on n'évoque plus vraiment le sujet. Bon, je peux même pas vous dire exactement, on est 160 membres d'équipage. Je crois qu'on est 20 personnels féminins. Mais tout ça est dans tous les secteurs, hein. C'est pas seulement secrétariat ou infirmerie, ce qu'on pourrait croire. On a des filles qui sont bosco, qui sont au bout, aux haussières, qui font des travaux un peu pas forcément des trucs très délicats et qui ont la force mentale, physique, de le faire sans problème. Donc voilà, on s'intègre dans toutes les équipes à bord. Puis surtout, on ne se sent pas du tout à part, enfin, dans les bons côtés comme dans les mauvais. Si on doit se prendre une petite réprimande, bon, c'est tout comme un homme. Il n'y a aucune difficulté à être une femme sur un bateau, voire même, oui, de temps en temps, des petits avantages, mais c'est vraiment très léger. C'est juste qu'on se fait peut-être moins chambrer que les autres, parce qu'on est des filles, donc on en profite un peu de ce côté-là. Voilà. Il n'y a aucune restriction. Hein. Les personnels féminins peuvent avoir accès à tous les postes sur un bateau. sans aucun problème. À tous les postes, une fille, enfin, il n'y a aucune restriction, quoi. Et dans toutes les équipes, voilà, que ce soit en opération, là, la prochaine officier chargée donc, des opérations, c'est une fille que j'ai rencontrée la semaine dernière. Donc on va être deux officiers à bord du Mistral féminin sur 18 officiers. Et voilà, et c'est un poste très actif, un poste technique. Et d'ailleurs, enfin, parce que les officiers qui sont sur les bateaux sortent tous de l'école navale. Moi, j'ai fait une formation de 3 semaines à l'école navale. Et on m'a très clairement dit qu'il y avait aujourd'hui quasiment autant de filles que de garçons, enfin beaucoup de filles en tout cas, et puis qu'en plus elles réussissaient avec succès l'école navale et qu'elles sortaient souvent primantes des promos, donc derrière elles ont le choix de faire ce qu'elles veulent et voilà.
Je n'avais pas de manœuvre attachée pour l'appareillage pour la navette. J'ai reçu une machine pour l'instant sur le A et le A.
Après plusieurs semaines d'essai au large de l'Atlantique, le Mistral restera à quai à Brest 4 mois. La direction des constructions navales doit refaire les sols, 12 000 m² au total. L'année dernière, un décollement des planchers avait été constaté sur son frère jumeau, le Tonnerre, alors qu'il était en construction à Brest. Le Mistral retournera à Toulon, son port d'attache, au mois de novembre, puis il partira pour de nouvelles missions à travers le monde.